Radio Campus, la radio des truffes.
Radio Campus 88.3.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus, vous êtes bien dans Écoute ta fac, il est midi. Aujourd'hui, jeudi, ça marque le jour d'une grande cohabitation. On aura 4 étudiants pour une nouvelle rédaction, rédaction étudiante. Et qu'on vous amène aujourd'hui, donc ça sera tous les jeudis, ils seront là normalement pour cette rédaction étudiante. Nous, aujourd'hui, on diffuse, l'équipe de Radio Campus, on diffuse une interview de Jules pour parler de la T17 qui nous quitte dimanche. Et après, je laisserai la main à notre nouvelle équipe.
C'est un rêve des années 70 qui s'effondre. Inauguré en 1970 pour héberger les salariés des chèques postaux, la T17, un immeuble de 273 logements dans le secteur d'Orléans-la-Source, est dynamité le 29 octobre 2023 à 11h. N'ayant pas fait ses preuves en France, retraçons ensemble l'histoire de l'habitat collectif, une révolution architecturale emblématique des Trente Glorieuses, cette période de forte croissance économique en France au sortir de la Seconde Guerre mondiale des années 1950 aux années 1970. Nous sommes au milieu du 19e siècle, lorsque les premiers immeubles dits modernes apparaissent. On change de matériaux. La pierre et le bois sont remplacés par le ciment, la brique et l'acier beaucoup plus résistants. Grâce à ces nouveaux matériaux, les immeubles dépassent maintenant les 7 étages. La tour Albert, située dans le 13e arrondissement de Paris, est le premier gratte-ciel de logement de la capitale française. Au même moment est mis en place l'électricité, l'eau courante ainsi que le tout à l'égout, ce qui améliore grandement le mode de vie dans ce nouveau type d'habitation. Un siècle plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, les villes les plus touchées se reconstruisent, et ce jusqu'à la fin des années 60. L'architecture est standardisée. Dorénavant, les façades sont sobres, avec peu d'ornements, à l'opposé des immeubles haussmanniens du début du 19e siècle. La construction doit être rapide, afin de reloger en un minimum de temps un maximum de personnes qui ont perdu leur logement dans les bombardements. Plus tard, dans les années 1960, à Orléans, d'importants programmes de construction de logements sociaux sont lancés dans la partie nord du quartier de la Source. La Source, c'est le nom du nouveau quartier d'Orléans. À un endroit où quelques années auparavant il n'y avait que des champs, se situent dorénavant des dizaines d'immeubles d'habitation. Un quartier pensé sur le principe d'urbanisme sur dalle. L'urbanisme sur dalle désigne le principe de séparer la circulation automobile de la voie piétonne sur différents niveaux. Alors que la circulation de véhicules se fait en sous-sol, la surface est exclusivement réservée aux piétons. Dans le quartier de la Source à Orléans, la résidence Beauchamp sur la rue de la Bolière est l'un des premiers grands ensembles édifiés. Elle est réservée dès 1964 aux fonctionnaires ainsi qu'aux rapatriés d'Algérie, fuyant alors leur pays car menacé de purification ethnique. Au même moment, on édifie l'ensemble André-Gide à l'ouest du quartier de la Source, sur l'avenue Kennedy. Les années suivantes, des centres commerciaux sont construits. Ainsi naît le centre commercial 2002, situé au pied de la T17 et de la dalle. Néanmoins, des désagréments liés à ce nouveau mode de vie font surface. La voirie est trop peu développée. Les habitants soulignent le manque de transports en commun, de commerce et de loisirs. La dalle étant construite uniquement en béton, les habitants se plaignent aussi du manque d'espace vert à proximité. En Europe, selon le site internet Statista, 43% des individus vivent dans un logement collectif, soit moins de la moyenne. Comment explique-t-on que ce rêve d'urbanisme des années 70 s'est transformé en cauchemar social? Pourquoi veut-on aujourd'hui dynamiter ce passé architectural? Livré en 1970 afin d'héberger les salariés des chèques postaux, la T17 a perdu en attractivité au fil du temps, les Sourciens préférant les habitats individuels aux habitats collectifs. Le bailleur social Pierre et Lumière, propriétaire de l'immeuble, ne la proposait plus en location depuis le mois d'octobre 2018. Je cite « Cela fait déjà longtemps qu'on avait un problème de vacances de logement dans cet immeuble et on savait que cela ne s'arrangerait pas », souligne Maxence Marchand, le directeur de l'agence locale Pierre et Lumière à France Bleu Orléans. Il n'y a pas seulement des problèmes d'occupation des lieux, il y a aussi des problèmes liés aux questions d'insécurité. Je cite « Certes, la tour faisait peur par sa taille, mais le vrai souci venait de la typologie des logements. Uniquement des T1 et des T2, mais avec de grandes surfaces et donc des loyers trop chers pour les étudiants et les personnes âgées », indique Maxence Marchand lors d'une interview de France Bleu Orléans. L'idée d'une démolition a donc fini par s'imposer dans le cadre d'un projet plus global de rénovation de la dalle de la Source, mené par Orléans Métropole avec le concours de l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Ce projet vise à rénover les habitations existantes afin de les remettre en vente. Des problèmes d'hygiène aussi. Je cite « Au pied de la tour, il y a toujours des mégots par centaines, une chaussette, le reste d'une brique de lait, du verre et des barquettes en aluminium. Un jour, c'est un canapé qui est passé par la fenêtre », déclare un habitant au journal de la République du Centre. La T17 a acquis une mauvaise image au fil des années, notamment due au fait que les Français privilégient l'habitat individuel à l'habitat collectif. C'est une tendance qui s'observe depuis les années 2000. Dans le reste de l'Europe et du monde, l'habitat collectif et les grands ensembles ont connu un destin différent. Dans l'ancienne URSS, l'habitat collectif est plus commun qu'en France, comme le démontrent les Kommunalka, des grandes maisons transformées en appartements en commun. Aux Pays-Bas, le logement social est plus présent que nulle part ailleurs. C'est devenu le logement général pour toute personne habitant aux Pays-Bas. À Amsterdam, le logement collectif représente 52% du parc immobilier. Aux États-Unis, tout comme en France, le logement collectif n'a pas fait ses preuves. Depuis plusieurs années, les grandes villes américaines détruisent leur logement collectif. Le logement collectif de New York ne représente plus que 5,8% du parc immobilier. Les catastrophes naturelles sont à l'origine de la mise en place des logements collectifs au Japon. Après le grand tremblement de terre du Kanto, en 1923, les sans-abri ayant perdu leur logement durant le tremblement de terre ont besoin d'être relogés dans les plus brefs délais. Le gouvernement va alors créer l'Association pour l'enrichissement du peuple. Son rôle, inciter à la construction de nouveaux logements collectifs pour les victimes du séisme. Alors que dans d'autres pays, les grands ensembles d'habitats collectifs ont su trouver leur place dans les paysages urbains, en France, le modèle n'a pas fonctionné et c'est l'habitat individuel qui a été par la suite privilégié. Je cite « La tour sera détruite par explosion un dimanche », indique Maxence Marchand. C'est un lieu emblématique et cela fera quelque chose aux habitants car cela changera le visage du quartier. En attendant, les travaux de sécurisation pour interdire tout accès à la T17, eux, ont déjà commencé.
Et donc c'était cette petite chronique de Jules sur pour dire au revoir à cette T17 qui nous quittera dimanche par foudroyage. Je vous lance une musique et après ce sera l'équipe de la rédaction étudiante. C'est tout de suite Flexing de Empire of Song.
Yeah, is this what they really wantin'? Stop and go dumb and if they front and then we dumpin'. Always up to something, never talking about nothing. Lamping where I'm camping, hearing sounds that we drumming.
Hold up.
Yeah, fine women head bobbing. Till the layers back and they got a lot of problems. Queen, you was thinking, but the mask hide a goblin. Magnifying glass and all the clues and you sobbing.
Hold up.
Hold up. I talk different than the others. Didn't pop it out to make some money with my brothers. Building in my palace with my son and his mother. Low key undercover, ladies want me as they love her.
Hold up.
Hold up. Situations over hover. Stay a lethal weapon. Mel and Danny Glover. Cooking up this music bass flavor, spreading butter. Rhymes and rap form body you like cookie cutters. Cutters.
Hold up.
This ain't my normal pattern side, but I'm every MC behind the wheel. Come take a ride. Off, off, glide. Taking flight on the outside. Yeah. Here we go. Here we go, kid. I eat MCs like Cheerios. That's a bowl full of rounds, how I kick the flow. Here we go, yeah. I'm just talking fresh material, yo. I'm just talking fresh material. Flexing on that ass, flexing on that ass. Eh. I'm just talking fresh material, yo. I'm just talking fresh material. It's
antagonizing for the dead rising. Jiving on the corner is no more, no surprise. And fooling off what you do, some might say I'm hiding. I'm just finding paper on this planet and you lying. Heard that you was crying, is that how you climbing? Scientists designing air motion, how we flying? Yeah, how's that for your eyeing? Black and blue magic, that's a brother who be skying. Why and above, everybody moving by him. Some might call me styling, all alone, I'm an island. Wilding out the dome, how I do, why you trying? Scientists design air motion, so we flying. Yeah, so electric how we crying. Pull your power cord and we keep moving by them. Mountaintop never drop, standing on the high end. See how easy I mess up your mind when I'm rhyming. On that perfect timing, illuminate we shining. Scientists designing air motion how we flying.
I'm just talking fresh material. Fresh, fresh material. Bless it, bless it, bless it, bless it. Fresh, fresh material. Yo, yo. Talking fresh material, flexing on that. I'm just talking fresh material. Yeah, I'm just talking. Come on, I'm just talking fresh material. Hold up, I'm just talking fresh material.
Et du coup, maintenant, c'est au tour de l'équipe étudiante, de la rédaction étudiante. Bonjour à vous.
Bah bonjour à toutes et à tous. Bah, bonjour, Luna, ma co-animatrice.
Bonjour.
On sera tous les deux les co-animateurs de l'émission. Et bonjour à toi, Chris, et à toi, Ludo. Vous
bonjour
serez
à tous.
Là aussi
bonjour.
Pour vos chroniques aujourd'hui. À toi, tu veux dire quelque chose, Luna ?
Oui, bonjour, Nico. Bonjour à tous. Et oui, en effet, pour cette émission, nous aurons beaucoup de choses à vous partager. Entre de la culture, de l'actualité politique, mais aussi des jeux et même des débats, l'émission sera riche en perspectives. On aura avec nous donc Chris qui nous parlera du référendum sur le droit de reconnaissance des peuples aborigènes en Australie. Ludo, lui, nous fera sa chronique sur l'artiste Nujabes. De mon côté, je vous parlerai de l'habit et de savoir s'il est ou non un outil politique. Et enfin, vous aurez le droit au fameux jeu de Nico qui se portera sur les chansons et les IA.
Et du coup, c'est à Chris, à toi de commencer. Alors, l'Australie a voté non au référendum sur les droits des aborigènes. Tu peux nous expliquer un petit peu mieux ce que c'est cette réponse du peuple ?
Bonjour à tous. Merci, Nico. Alors oui, je vais commencer cette première chronique sur l'Australie. Et notamment du fait que l'Australie a voté non au référendum sur les droits des aborigènes. Le samedi 14 octobre dernier, s'est tenu l'un des référendums les plus importants de l'histoire de l'Australie. Un référendum qui avait pour objectif d'enfin reconnaître, et cela de manière constitutionnelle, les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres comme les premiers habitants de l'île. Il était donc proposé à la population australienne de voter pour modifier ou non la constitution, avec pour enjeux principaux le fait de reconnaître pleinement les peuples aborigènes dans la constitution, puis d'autoriser la création d'un nouvel organe représentatif et consultatif qui aurait eu pour mission de conseiller le Parlement australien sur les lois et les politiques publiques relatives et qui impactent directement les peuples aborigènes. Pour prendre la mesure de l'enjeu, voici quelques chiffres. 250. 250, c'est le nombre de nations aborigènes qui existent encore en Australie. À elles toutes, elles représentent près d'un million de personnes, soit près de 3,8% de la population australienne. Moins de 93 000. C'est le nombre d'aborigènes encore en vie au début du 19e siècle, alors qu'ils étaient plus ou moins 1 million en 1770. C'est donc un véritable génocide et un nettoyage ethnique que le gouvernement britannique a orchestré durant près de deux siècles de colonisation. Pour en revenir au résultat du référendum, pendant très longtemps, le oui a été en tête des sondages. Cependant, l'ancien ministre de la Défense, Peter Dutton, très connu en Australie, membre de la droite conservatrice, va réaliser une campagne contre le oui, qui va s'avérer extrêmement efficace. Dans le pays, le référendum a très vite pris une importance capitale et a beaucoup divisé. Du côté de l'opposition, il y a eu une véritable guerre de l'information. Entre les fake news, les propos racistes et les théories du complot, tous les coups étaient permis. Du côté des partisans du oui, beaucoup d'actions et de marches pour le oui ont été organisées avec des milliers d'aborigènes et d'australiens dans les rues. Malgré ses campagnes pour le oui, c'est bien le non qu'il a remporté avec plus de 59% des voix. Rappelons également que le vote en Australie est obligatoire et que près de 18 millions d'Australiens ont été appelés aux urnes. Le 14 octobre dernier, ce n'est pas seulement le référendum qui fut perdu, mais c'est avant tout le refus des descendants des colons européens de donner ce qui revient de droit aux populations aborigènes dont les ancêtres vivent sur le continent depuis près de 60 000 années. C'est donc l'histoire des droits des peuples aborigènes qui attendra.
Merci Chris pour cet éclaircissement sur le droit des aborigènes en Australie. On fait une courte pause musicale et on revient vers vous d'ici quelques minutes. À tout de suite.
Et du coup, tout de suite, c'est Blue Jeans d'Extra.
Retour sur l'émission Écoute ta fac. Il est actuellement midi 18 et on espère que vous allez tous très bien. On va passer à la chronique de Ludo. Tu vas nous parler du producteur japonais Nujabes. Qui est Nujabes Ludovic ?
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique et cette première chronique où nous allons ensemble parler culture et art. Et aujourd'hui, on commence en musique avec une légende du hip-hop. Nujabes, de son vrai nom Jun Seba, qui est sûrement un des producteurs les plus méconnus et pourtant dont l'œuvre, l'influence et la postérité est immense. Si on le connaît aussi peu, c'est aussi probablement parce que son œuvre l'a dépassé. Hein. Il va être le précurseur de certains styles comme le hip-hop instrumental, le jazz-hop, le rap SoundCloud dans les années 2016-2018. Est-ce que Nujabes, ça vous parle ?
Pour ma part, pas du tout.
Pas du tout non plus.
Alors non, non.
Et pourtant, je pense que vous le connaissez, ou du moins que vous l'avez déjà entendu, sûrement sur les réseaux sociaux à travers YouTube, Instagram, TikTok. Donc on va mettre un petit extrait maintenant. Voilà, donc ça c'était Hawaiian Dance de Nujabes, un de ses titres les plus connus qui apparaît très souvent sur les réseaux. Et donc on va en parler un petit peu. Nujabes, c'est un gars un peu discret, hein, à l'image de sa notoriété, un gros fan de son et notamment de hip-hop. Mais dans les années fin 90, début 2000, le hip-hop au Japon, ça n'existe pas vraiment. Donc Nujabes va ouvrir son propre magasin de vinyle à Shibuya, à Tokyo. Et d'ailleurs, un des seuls de la ville est considéré comme la référence hip-hop underground de la ville. Nujabes, il va fouiner, multiplier les influences, il va affiner son style pour finir par se réapproprier le rap des années 90 avec des samples de jazz super vieux qu'il a bien fouillé, et ce qui va donner cette patte particulièrement apaisante et éthérée dans sa musique. Ces quelques sons vont d'ailleurs se faire connaître dans la ville tokyoïte et suffisamment pour travailler sur la scène anglaise et américaine. Nujabes est exigeant et cela se ressent dans sa musique. Il choisit ses artistes sur le volet, toujours des pépites de talent brut dont il va polir ce même talent. Des artistes qu'on va retrouver d'ailleurs avec lui tout au long de ses projets, comme Shing 02 ou encore Substantial. Mais bon, les petits sons indés, c'est sympa, mais après avoir créé son propre label, Nujabes compose son premier projet en 2003, Metaphorical Music, et surtout en 2005, Modal Sound, son chef-d'œuvre incontesté. Nujabes est quelqu'un qui fait vivre les émotions dans sa musique, comme en témoigne d'ailleurs le nom de ses projets, hein, toujours sur la métaphore sur l'âme. On sent son amour pour la chose bien faite et la perfection qui l'anime. Ce sont des sons qui transpercent l'âme, qui résonnent en nous. Certains de ces sons vont évoquer la joie, la tristesse, la mélancolie, le partage, témoignant de sa simplicité, surtout de sa fibre artistique. Le mélange de la sérénité du jazz, la rythmique entraînante du hip-hop et les quelques apports d'instruments nippons caractérisent particulièrement sa musique. Dans la plupart de ses sons, d'ailleurs, l'instrumental prend l'ascendant sur les paroles. Et ça qui est incroyable, c'est que le rapport de force s'inverse, témoignant d'un véritable tour de force de l'artiste. Inqualifiable, je pense que c'est le mot qui décrit la musique de Nujabes. C'est une musique qu'on ne peut vraiment décrire, tant l'appréciation va être différente en fonction de chaque auditeur. C'est un moment qui se vit. En 2005, donc dans son chef-d'œuvre Modal Sound, Nujabes explore de nouvelles sonorités, toujours inspirées du jazz. Il va s'essayer notamment à la flûte, mais de manière cette fois beaucoup plus expérimentale. Son expérience du premier album et son travail sur la BO de l'animé Samurai Champloo, qui va d'ailleurs le propulser mondialement, le fait prendre plus de risques, le pousse plus loin dans sa créativité. Sa musique est encore plus insaisissable, mais d'autant plus enivrante. Les rythmes flegmes s'allient à merveille avec des couplets de rap bien placés, saupoudrés de passages de house et de dance. L'album est encore mieux produit que le précédent, certes plus paisible et posé, mais avec des teintes plus claires, plus perçantes, qui viennent d'autant plus faire écho chez l'auditeur. Ainsi, par cette difficile alchimie de style et ce camaïeu d'émotion, Nujabes aura réussi à faire le tour de force de remettre le lofi sur le devant de la scène mondiale et redonner un souffle au jazz dans la création musicale. L'artiste va léguer derrière lui des inspirations fortement reprises, notamment donc dans le SoundCloud rap des années 2016-2018, et le compositeur aura su donner une place au Japon sur la scène du hip-hop, et rien que pour ça, on peut le saluer. Aujourd'hui, malheureusement, l'artiste est décédé en 2010, mais son œuvre, elle, subsistera encore longtemps.
Bah merci à toi, Ludo. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. Alors, après cette petite pause culturelle, on va passer dans quelques instants à une chronique qu'on pourrait intituler, entre guillemets, « L'habit ne fait pas le moine en politique » avec Luna. Mais je vous propose avant une petite pause musicale pour se détendre et revenir en pleine forme pour la chronique de Luna.
Et du coup, on part avec « Feel Me From Inside the Sun Dunes ».
Thank you.
Vous êtes toujours en direct de Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Alors que vous soyez en voiture, chez vous, en train de faire votre dissertation pour demain ou en train de manger tout simplement, je vous propose d'écouter une chronique de Luna avec une question qui est très intéressante. Est-ce que l'habit est-il politique ?
Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie de la mode, c'est une des industries les plus importantes de ce monde. Son chiffre d'affaires se mesure à des centaines de milliards d'euros chaque année. Un chiffre colossal qui dépasse même le secteur de l'automobile. C'est pour vous dire, à l'heure de la surconsommation, l'habillement est un élément central dans la vie de beaucoup d'entre nous, en particulier des pays dits développés comme la France. On s'habille tous les jours pour aller à l'école, au travail, mais ne vous êtes-vous jamais posé la question « Pourquoi je m'habille de cette façon ?» Qu'est-ce que l'habit dit de moi ? D'un point de vue psychologique, la mode serait un moyen d'expression muet. On ne dit rien, mais en réalité, par ce que l'on porte, on transmet des messages. Les vêtements ne servent donc pas seulement à avoir chaud l'hiver, mais il est aussi un moyen d'expression propre à nous-mêmes. Il peut exprimer notre humeur, ce que l'on aime, mais il diffuse aussi le message suivant : à quel groupe appartenons-nous ? Le vêtement que nous portons traduit de quelle classe sociale nous sommes. Si on pense au bleu de travail, par exemple, on pensera directement à l'ouvrier, qu'il soit qualifié ou non. L'ouvrier étant en grande majorité inscrit dans la classe populaire, son bleu de travail sera perçu appartenant donc à ce groupe. Donc si on suit la logique, les habits sont connotés selon comment les personnes de chaque classe sociale le regardent. Et ça, beaucoup de politiques l'ont très bien compris. On se souvient du fameux col Mao qu'avait porté l'ancien ministre de la Culture Jack Lang pour se montrer comme un homme de gauche. Donc l'habit serait donc un moyen de montrer son appartenance à un groupe. Il est un message à lui tout seul. Il est même instrumentalisé par les politiques qui savent très bien son importance. Il exprime des valeurs qu'on veut mettre en lumière. On peut prendre aussi en exemple Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, qui avait porté des Converse en soutien à cette entreprise américaine, mais aussi pour aborder un style plus décontracté. Alors on peut dire que l'habit fait le politique, voire que c'est le politique qui fait l'habit. Si le corps est politisé, alors le vêtement l'est tout autant. À certains moments, la mode peut nous aider à dénoncer. L'ancien candidat du NPA à l'élection présidentielle, Philippe Poutou, est un exemple. Vous verrez que dans chaque émission télévisée où il est invité, l'homme politique ne viendra jamais dans un costume. En simple t-shirt, il montre son rejet face à ses codes trop bourgeois pour lui. Philippe Poutou conteste cette complaisance bourgeoise pour lui, qui impose ses propres codes à toutes les classes, même populaires. La cravate est d'ailleurs l'atout majeur de ses codes, symbole de l'homme sérieux. Cet accessoire est devenu une norme. Des députés comme Éric Ciotti de Les Républicains ont même déposé une proposition pour inscrire le port obligatoire de la cravate au sein de l'Assemblée nationale. Le vêtement est donc une marque d'appartenance, chaque vêtement est codifié, il peut être perçu comme plutôt bourgeois ou populaire, il peut être aussi perçu à appartenant à une tendance politique. On avait parlé de la gauche et du col Mao, mais on peut aussi faire référence pour la droite à la cravate ou bien aussi la doudoune sans manche par exemple. Apparue dans les années 50 dans le milieu sportif, la doudoune sans manche est maintenant devenue un habit phare, beaucoup d'hommes la portent afin de se donner une allure qu'on pourrait qualifier de start-up nation. Ce smoky un peu plus décontracté montre l'image d'un homme mobile et flexible qui s'adapterait à toutes sortes de situations dans son travail, sûrement celui du milieu des affaires. Bon, assez rigolé sur la doudoune sans manche. Vous commencez à comprendre où je veux en venir. L'habit est codifié, ça on sait. Mais le vêtement est-il pareil selon qu'il soit porté par un homme ou par une femme ? La réponse est non. Les femmes sont toujours jugées par le regard des hommes sur ce qu'elles portent. En politique, le sexisme est très présent. On se rappelle en 2012 de la venue de Cécile Duflot à l'Assemblée nationale. L'ancienne ministre était arrivée avec une robe à fleurs et avait été sifflée lors de sa prise de parole. Certains députés avaient même crié « Enlève tes boutons !» En pantalon comme en jupe, les femmes sont le plus souvent pointées du doigt sur le choix de leurs vêtements. Donc le vêtement est un message. Il dit de nous de ce que nous voulons transmettre, à quoi et à qui nous voulons appartenir. En fin de compte, on pourrait dire que l'habit est un marqueur autant politique que social.
Bah merci à toi, Luna. Et j'ai une petite question. Le look de Rosine Bachelot rose avec les crocs roses, tu classerais comment
hein? Alors là, c'est très compliqué, mais c'est clairement un coup de com', ça c'est sûr, de sa part, pour se montrer un peu plus décontracté et un peu plus moderne.
J'en ai une autre. Les pulls à col roulé du gouvernement pendant l'hiver, c'est aussi un message politique?
Oui, plus de chauffage.
Oui, c'est vrai que c'était à un moment où c'était la crise en Ukraine, il me semble.
Oui, c'était ça.
Enfin, la guerre en Ukraine, pardon.
Oui, c'était la recommandation du gouvernement de porter des pulls pour se réchauffer et moins utiliser l'électricité, c'est ça?
Tu as bientôt une chronique sur les cols roulés, finalement.
Bientôt.
Finalement,
qui sait? Après le doux de son manche. Hein.
Après le doux de son manche.
Merci à toi, Luna. Et on arrive dans votre deuxième partie d'émission. Plus relax, on va plus jouer. On va jouer ensemble sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et la musique. Vous allez voir. On va découvrir les coups de cœur culturels de l'équipe aussi. Culturels de l'équipe, film, théâtre... livre, art, tout.
Recommandation.
Recommandation, coup de cœur, oui, ce que tu veux, Ludovic. T'as déjà un point de moins pour le jeu, déjà. Hein.
Allez, yes.
Bon, bah, place au jeu. Et on va jouer tous ensemble avec un jeu que j'ai décidé d'appeler Mais qui chante,
hein. Mais qui chante.
Oh. Qui chante. Qui chante. Alors, que le jeu, aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, sur TikTok, Instagram, YouTube, on voit beaucoup de vidéos de, par exemple, de politiques, d'acteurs, chanteurs, sportifs qui vont chanter ou parler dans une langue différente, alors que c'est pas vrai, quoi. C'est l'intelligence artificielle qui fait, pour moi, me fait peur, je trouve. À tout moment, on peut voir Donald Trump chanter du Shakira, Trump twerker sur la scène du Super Bowl, ça c'est très flippant.
Encore ça va.
Encore ça va.
C'est rigolo.
Mais c'est un jeu qui, je trouve, ça, c'est quand même très flippant, mais c'est quand même très moderniste, parce qu'il y a deux, même il y a un an, deux ans, qui sait qui a revu ça encore, qui a revu une telle perfection. Donc j'ai décidé de faire un petit jeu, ça va être une sorte de blind test. Vous allez pouvoir jouer chez vous, en plateau, en régie, tout le monde pourra jouer. Et j'ai diffusé des musiques. Vous allez devoir trouver la musique, le titre de la musique, bien sûr. Mais en même temps, chanté par une personnalité qui n'a rien à voir avec la musique. Que ce soit acteur, parfois politique, parfois chanteur, il faut trouver. Ah, vous voulez un exemple?
Allez.
Allez, allez.
On va lancer le premier exemple.
Ok, j'ai Emmanuel
Ils
Macron.
Bientôt que nos balles sont
pour
nos propres
généraux.
C'est l'international.
C'est l'international.
Oui, c'est qui l'aurait dit? Macron qui chante la lutte finale. Franchement.
Et ah c'est... Oui, ça, c'est sûr.
Et c'est bien fait en plus.
C'est bien fait,
c'est
en plus.
Assez
c'est, flippant. C'est flippant. Donc là, on va partir sur le jeu. Les points vont compter. Et on écoute bien la musique et on donne la réponse après la musique. Okay. Pour que les gens chez eux puissent jouer, on fait leur dissert. Allez, on part sur le son suivant. Alors?
Moi j'ai.
Ah, tu as?
Bah si, franchement.
Alors?
Vous avez pas?
Le titre.
Moi j'ai peut-être la chanteuse.
La musique, ouais, mais personne.
La personne.
Ouais, mais là c'est pas une chanteuse qui est.
Ah, ça, c'est un chanteur.
C'est un mec là.
C'est un mec.
Ah là c'est un chanteur.
C'est un chanteur.
C'est un homme.
Moi, je suis très mauvais.
Ah, c'est un artiste.
Ouais. Je suis très mauvais.
Ah, tu as, je pense.
Il est mort.
Il est mort, oui, en effet. Alors?
Freddy
Gladio.
La petite moustache.
Freddy Mercury.
La petite moustache. Freddy Mercury.
L'Alia était moyenne quand même un peu.
Alia était moyenne, mais c'était, moi je trouve que c'est très beau parce que
c'est perdant,
une belle
c'est
voix
tout.
Sur une belle musique.
Non, après que tu le dis, en vrai c'est vrai, je reconnais, mais sur le coup c'était difficile.
Bah tu dis que là c'est compliqué, tu vas le prochain.
Attends,
tu vois, le prochain
bon.
C'est un banger.
On a été trois à pas trouver. Ok.
Et que tu sois, c'est les petits gens. Allez, viens, je t'emmène le dossier des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel.
Alors?
Mais Nico, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi
ah,
ça?
Ah ben,
pas du tout.
Encore, je trouve que c'est les deux moins pires.
C'est un espagnol, il
est français.
Il a un petit
attends,
accent, je trouve.
Tu dis deux moins pires ou deux moins compliqués?
Ah non, après ça va être très facile.
Ah mais là, j'ai pas du tout.
Là, j'ai pas.
Donnons un indice.
C'est un acte. La musique, vous l'avez?
Ouais, c'est
oui.
Louis Attaque.
Alors,
oui, Louis Attaque.
C'est un acteur.
Je voudrais, non?
C'est un acteur, on va dire qu'il est très connu. On connaît pour son physique et ses rôles.
Un acteur connu français.
Mais il est français.
Alors français quand
il
veut.
Franco-russe.
Quand il veut.
Voilà franco-russe.
Ah.
Quand il a un point à payer.
Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu en effet.
Gérard 4 par 3 finalement.
Ah
non.
Oui.
Non.
Ouais, bah, t'as le point mais bon ça fait mal au cœur de.
Ah, moi je l'enlèverais le point pour cette blague.
Ah, moi franchement.
Oui, moi aussi.
Mais bon le prochain je trouve c'est la plus pépite.
Ouais déjà j'ai pas la musique.
Là, Alors, qui c'est qui chante Nick Laback?
Mais il est malade, là, le mec.
Déjà. Alors, la personne.
Non, mais surtout. La gorge enrouée, ouais.
Waouh! Vous allez voir qui c'est?
Alors, moi, je...
c'est très drôle.
Moi, je l'ai, mais on me l'a dit. Donc,
qui c'est qui te l'a dit?
Je crois que c'est toi qui me l'a dit.
Mais non, je l'ai pas dit, j'étais gamin. J'ai pas dit.
Ça dit les choses ensemble. Bah... On dirait que c'est Emmanuel Macron, je trouve.
Et oui, c'est Macron qui chante Nick Laback. Je voulais faire Darmanin, mais je n'ai pas trouvé Darmanin.
Ah, bah voilà, moi, j'étais resté là sur Darmanin.
Moi, je vais faire Darmanin, mais je n'ai pas trouvé Darmanin.
C'est dommage.
C'était très drôle. Alors le prochain, peut-être plus compliqué la voix.
Ah, il y en a d'autres. Parfait. You can never know what it's like to play the life when a freezer just like ice and there's a cold alone and life it shines from you. You wonder about the red you hide behind that map you use. But I'm still standing better than I ever did. Look a lot to turn so right.
Alors déjà, moi, pourquoi tu as ruiné ce titre?
Ouais, ouais, clairement, ouais, ouais, ouais.
C'est, qu'as-tu fait?
Ah, c'est l'IA, c'est l'IA.
C'est abominable. Déjà, I'm Still Standing.
C'est incroyable.
C'est Elton John.
C'est tout détruit.
Alors, c'est Elton John. Mmh. La musique, la chanteuse, du coup, c'est une femme.
Si c'est Elisabeth Borne, je me tue sur place.
Ah, on n'est pas loin.
Ah, on n'est pas loin.
Non, non, on n'est pas loin.
C'est pas elle, mais on dirait.
Après, il y a un petit indice par rapport à Elton John. Il est proche d'une famille très connue.
Marlène Schiappa.
Non!
Non!
Ah ouais?
Non,
oh, allez, bien.
Quand même,
il y a des gars partout. Anglais?
Oui.
La famille royale?
Oui.
La reine d'Angleterre?
Laquelle?
Bah,
il y
en
a deux.
Elisabeth
II. Une qui est morte, mais.
Bah, Elisabeth II.
Elisabeth II qui chantait, c'est très sympa.
Waouh!
Wow. Ah ouais, elle était wow. Là.
Mais grâce à moi, elle est ressuscitée, ok?
J'y ai pensé.
Grâce à moi, pendant
un temps, j'ai mangé Diana, ok?
Je pense qu'elle aurait dû rester.
Elle aurait dû rester.
Elle aurait pas dû revenir.
Le prochain, le premier qui rigole, je le dénonce.
À la police,
j'ai peur.
Voir. Au bac. Danse avec moi, si tes poids que ta vie est là, ce n'est pas un problème pour moi. Oh, la vie d'art, je veux me si tu veux le voir. Seigneur.
Tout le monde a rigolé, voilà.
Bon bah,
je sais pas.
On est obligé de dire le nom.
C'est l'Aziza.
On va dire le Z.
Daniel Balavoine.
Ouais,
c'était le Z, sans dire son prénom.
Double
Z. C'est le nom imprononçable.
Le Z qui sont. L'Aziza, franchement, c'est sympa.
Le chroniqueur polémiste, voilà, Eric Zemmour.
Alors le prochain.
Le prochain est
un autre. Il y en a plein. Il reste quelques-uns. On a du temps, allez, c'est parti pour le prochain.
Ok.
Oh là là, incroyable. Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, avant que tu prends ton gant, tu me cherches si t'es. Vous voyez... Elle est incroyable.
Vous voyez pas chez vous, mais en plateau et en régie, ils n'arrêtent pas de danser.
Elle est exceptionnelle.
Que celui qui ne l'a pas vraiment se dénonce.
Ouais, elle,
l'a
pas ici. Elle est trop bien faite celle-là.
Parce tout le monde
l'a.
Incroyable.
Moi, je pense vraiment l'avoir.
Non, mais tout le monde l'a, je pense. C'est...
Bah, tout le monde l'a. C'est qui?
Johnny Hallyday.
Feu,
voilà.
Johnny.
Voilà, Johnny Hallyday qui chante les cités d'or, franchement.
Ouais. Voilà, mon
non, mais vraiment, les...
Grâce à moi, les morgues. Là,
ah bah là, tu fais ressusciter tout le cimetière.
Oui, vraiment, il faut prendre des artistes vivants un peu.
Alors, le prochain, c'est un artiste très vivant, mais qui commence à divin. Voilà, voilà. On va écouter, tu vas voir.
Couramment de nouveau, loi des bidonvilles, les
arts. Oh ma couba, elle danse tous les soirs. Ouvrez donc elle lui porte, qui ne pense qu'à voir. Oh ma couba, elle danse tous les soirs. Ouvrez moi la largue qui cherche la bagarre. Oh ma couba. Alors ?
Il est fatigué un peu le mec.
Sardou.
Ah bah oui,
c'est Sardou.
Vous allez voir qui c'est la personne, elle est très fatiguée.
J'ai pensé aussi à Sardou.
Non.
Mais moi j'ai pas d'idée
ouais,
là.
Non.
Moi je me suis dit, il y a une pluralité quand même politique dans mon jeu.
Là.
On est passé un coup à l'extrême droite.
Ouais.
Au centre.
Makoumba, c'est lui.
Là c'est à gauche.
Là c'est à gauche.
Mitterrand. Ouais. C'est Jean-Luc Mélenchon.
C'est pas la Méluche.
Oh, mais si c'est Méluche.
C'est Merluche.
C'est
Merluche.
Oh mon dieu.
Là c'est Merluche qui chante au bal de fin de la NUPES, là franchement.
Ah ouais, trois verres d'alcool.
Là c'est.
Enfin, 4 pastilles dans le
sang. Consommer avec modération.
Alors le prochain, je pense que c'est aussi banger que Zemmour qui chante la Disa. Alors c'est qui?
C'était
la chanteuse.
Dis nous Ludo, vas-y.
La musique de base.
Déjà c'est une femme déjà. Ah la musique de base, oui, je j'ai plus le titre.
C'est Dalida. Salma, voilà.
Une femme de droite.
Ou d'extrême droite. De droite, selon nous, mais pas selon elle.
Mais pas selon elle.
Pour elle, elle n'est pas de droite.
Ah, pour elle, elle n'est pas de droite.
Pour elle, elle n'est pas de droite. Elle est inclassable politiquement, d'après elle.
Ouh là là. Femme.
Indice. Je peux vous limiter.
Une macroniste.
Ils sont là.
Oui, voilà, c'est Marine Le Pen.
Oui, c'est la Marine.
Oui, voilà, ce que j'allais dire. J'allais dire Marine Le Pen.
Oui, moi aussi, je voulais le dire.
Ah, parce que vous avez une chanteuse, si je chante en arabe, c'est pas Marine Le Pen. Bravo.
Mais non, mais c'est juste que t'as dit. T'as dit, elle se considère pas.
Marine Le Pen, elle dit, pour elle, elle n'est pas à droite. Pour elle, elle n'est aucune partie politique.
Ni de gauche, ni de droite.
C'est ça, c'est
ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Qui a parlé? C'est le fantôme.
C'est le fantôme de la radio.
C'est Johnny, le fantôme de la régie.
Johnny, tu es
là. Allez, Johnny, tu reviens chanter le générique.
On va faire un autre.
Moi, je reviens du Johnny.
Alors, ceux-là, peut-être la chanteuse, à part ceux qui sont vraiment très forts, on veut la voir. C'est une chanteuse. Hey.
Ce serait pas Maria Carey?
Ah non.
Non.
Même style, une diva.
Parce que la musique est jolie, hein.
C'est très joli. Vraiment, je l'écoutais hier, je l'écoutais en boucle pendant 3 heures.
C'est bien. Non mais tout ça, c'est fait par l'IA, quoi. Faut le rappeler,
c'est
hein.
Incroyable.
C'est
une dingue. Je pense pas que Johnny et la Reine Mabuta sont revenus pas pour chanter pour moi.
Celle-là, on peut avoir le doute. Mais sur certaines, on savait que c'était l'IA.
Là, c'était très beau. La chanteuse est morte.
Dalida?
Non.
Whitney Houston.
Whitney Houston aussi.
Whitney Houston qui chante sur le Freddie Mercury.
Bravo.
Allez, un tiers mon dernier.
J'y ai pensé aussi.
Allez.
Alors, la musique va être très drôle.
Johnny.
Ah non, c'est pas Johnny. Attention, là c'est peut-être compliqué la voix, mais c'est très drôle.
C'est parti. Peaches, 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 peaches,
alors,
oh, elle est malade.
Alors la musique, je l'ai, c'est la musique de Boozer dans le dernier Mario.
Boozer.
Boozer. Franchement. Alors?
Ah, j'ai pas du tout. Hein.
C'est
ouais,
un politicien mais pas français.
Attends, j'étais sûr encore.
Lula?
Non.
Barack Obama?
Il faut une voix connue.
Attends, quel continent déjà?
Vladimir?
C'est Trump.
Ouais, oui, c'est Donald Trump qui chante du Bowser. Du Bowser? Du Bowser?
Bowser.
Du Trump qui chante du Bowser?
En tout cas, il a une voix qui porte. Hein. Ouais.
Allez, on va passer sur le dernier. Là, c'est un duo. Aigus, attention, plus dur. Duo.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant. Pulvérisé, sur hôtel, de la violence éternelle.
De cet angers au bout du monde, s'il est fait vent.
Le duo de choc.
Ok, je l'ai, le choc.
Le duo de choc.
Ah ouais.
Hey.
Déjà, c'est Manhattan Kaboul déjà.
Manhattan Kaboul. Et qui c'est qui chante Manhattan Kaboul?
Bah, c'est Renault. Non,
pas, c'est Renault, ouais.
Renault et Axel Red de base.
Axel Red, oui.
Le Z et le P.
Et là, c'est le Z et le P.
C'est le Z et le crayon. Le Z et le crayon en français, on va dire. Et voilà, bah oui. C'est... Bah, du coup, il y a tout à peu près ex aequo, sauf Luna qui a presque qui a pas trouvé grand chose.
Non, ah,
ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il y aura de revanche.
Je me vengerai là.
Tu te vengeras, tu vengeras.
Elle nous laisse la parole, c'est pour ça.
Mais merci. Bah, merci d'avoir joué avec nous. Et je vous propose qu'on retrouve de la musique, mais avec un vrai chanteur, une vraie musique. Et après, on fera les coups de cœur culturels de l'équipe.
Alors, moi, j'ai un petit coup de cœur, c'est Sayen de l'IA, là,
Qui est
incroyable, qui reprend Angèle et la chanson de...
On peut faire une parenthèse dessus? Une mini parenthèse?
Oui. Ah,
de Vaiana?
On a un petit trou.
Bah, il y a deux chanteurs sur la musique
de Sayen.
Non.
Ah oui, c'est Gazo et je sais plus qui.
Oui,
voilà.
Mais voilà.
On arrivera à le trouver.
Mais voilà.
Après, vous allez réfléchir et on en reparlera après.
C'est mon petit.
Exactement.
Et en fait, il faut savoir que le gars qui a fait l'IA, il a pas juste mis l'IA, mais en fait, il a retravaillé la chanson, il a retravaillé l'instru, en fait. Et après, il a chanté par-dessus. Et après, il a mis donc ce qu'il a enregistré avec sa voix dans l'IA. Et c'est pour ça que ça sonne aussi bien aussi. Parce qu'il a tout retravaillé, en fait. Okay. Il a pas juste passé la musique dans l'IA.
Il a fait un autre rendu.
Ouais. Et ça, c'est un vrai moyen d'utiliser l'IA dans la musique, tu vois.
Okay.
Voilà.
Du coup, en parlant de musique, comme tu dis, on va écouter un nouveau morceau qui est
on part avec de la vraie musique, de la vraie, du vrai chant, de la vraie chanson, avec Cable Ties avec Mumps Caravan.
Bah c'est parti.
Les sujets d'intelligence artificielle vous intéressent, chers auditeurs et auditrices, sachez que l'année dernière, en avril dernier, au détour du festival Ondulation de Radio Campus autour du numérique et de la création radiophonique, on a parlé d'intelligence artificielle et toutes ces émissions qui ont été produites, notamment justement sur la place de l'intelligence artificielle et ce qu'elle apporte en fait dans l'enseignement supérieur, dans l'art et la culture et également dans les questions de journalisme. C'est à retrouver sur notre site internet orleans.radiocampus.org et également sur la plateforme nationale des Radio Campus, radiocampus.fr. Et un deuxième contenu que vous pourrez aller découvrir à la fois sur Radio Campus Orléans et sur Radio Campus Tours, c'est une interview qui avait été réalisée lors de Terre du Son avec deux musiciens qui utilisent l'intelligence artificielle dans leur création, un ancien du groupe Dive de la Faune et le deuxième qui est musicien sur le pôle d'expérimentation de Sony Productions.
Merci Erwan. Avant la fin de l'émission, Avant de la fin de l'émission Écoute ta FAQ, on a une petite recommandation littéraire à vous faire partager avec toute l'équipe. On peut commencer par Chris. Est-ce que tu as un livre, un artiste à nous faire partager ?
Alors moi, j'ai un livre très intéressant que j'ai lu cet été durant les vacances, qui se nomme La Dame aux Camélias, qui est un roman de l'écrivain français Alexandre Dumas, publié en 1848. Le livre raconte l'histoire d'une courtisane parisienne, Marguerite Gauthier, qui tombe amoureuse d'un jeune homme, Armand Duval. Mais leur amour est entravé par la haute société parisienne, qui désapprouve leur relation en raison du passé de Marguerite, qui est courtisane. Le livre va aborder des thèmes tels que l'amour, la sexualité, la société et la mort. Pour ma part, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, non seulement le livre est extrêmement bien exécuté, très bien écrit, forcément c'est Alexandre Dumas, fils, qui l'a écrit, mais ça nous permet aussi de comprendre ce que c'est l'amour au-delà de toutes les entraves qu'il y a dans notre société. L'amour restera toujours plus fort que tout et il faut savoir aimer, il faut savoir malgré tout ne pas se mettre de barrières, et c'est ça qu'aborde ce livre.
C'est beau, ça m'a convaincu.
Merci Chris pour cette recommandation.
T'en as une toi, t'as un coup de cœur, une recommandation, Ludo, à nous faire.
Ouais, moi toujours dans ma ligne édito d'ailleurs, ça tombe bien. Frank Conroy, Corps et âme, qui est un livre américain qui date un petit peu. Ça parle d'un jeune enfant, Claude Rawlings, un jeune enfant qui est destiné à être spectateur d'un monde inaccessible puisqu'il est musicien. Il se découvre un talent de musicien avec un piano désaccordé dans sa chambre, et en déchiffrant les secrets de son piano, il va se découvrir lui-même. Il va commencer à avoir accès à des cours de piano dans une boutique à côté de chez lui, etc. Mais prisonnier d'une mère violente et alcoolique, c'est un peu compliqué pour lui de s'émanciper de ça. Et la musique, évidemment, au centre du livre, musique classique, grave et morale, mais aussi la pulsation irrésistible du jazz. Et autour d'elle, en une vaste fresque foisonnante de personnages, Frank Conroy va brosser le tableau fascinant et drôle et pittoresque et parfois cruel d'un New York en pleine mutation, avec comme sujet principal le jazz et la musique. Et je crois que c'est un des livres qui parle le mieux de la sensation que la musique procure. C'est un peu technique, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire, évidemment, qu'on n'a pas si on n'est pas un peu musicien. Moi, parfois, je me perds totalement. Mais au niveau de l'émotion procurée, des sensations, c'est un des rares livres que j'ai lus sur un sujet musical qui est aussi précis, qui touche autant. Et voilà, c'est un livre très sympa. C'est un classique, d'ailleurs. Il y a eu un film dessus. Je crois que L'Enfant prodige. Donc voilà, je vous le conseille.
D'accord. Très bien.
Luna, tu as une recommandation à nous faire, artistique, culturelle, cinématographique, ce que tu veux, artistique ?
J'aurais un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle L'art de la rhétorique par Clément Viktorovitch, qui est un doctorant en sciences politiques. Le livre parle donc de ce qu'est la rhétorique. Voilà, c'est assez intéressant. Ça peut parler de tout ce qui est, de tous les discours, même des textes qui sont produits, et comment en fait les personnes arrivent à convaincre les autres. Comment les décrypter, et toute cette analyse, etc., qui produit dans son film. Donc là, je suis au début, donc je ne pourrais pas tout vous dire, mais en tout cas, c'est très intéressant, et il a l'air d'être vraiment très passionné par ce qu'il fait. Donc je vous recommande ce livre.
Il fait des très bonnes chroniques sur France Inter, je crois.
Aussi,
France
Info. Oui.
Tu fais la pub pour la concurrence, là
ouais. Sur Quotidien, c'est pas une radio. Il fait des chroniques sur Quotidien.
Et toi, Nico, t'aurais une recommandation ?
C'est pas un livre, ce serait plutôt un film. Un film qui m'a marqué, parce que je trouvais ça super beau, et c'est rare de voir les films avec des acteurs qu'on connaît pour humour. C'est un film avec Lucchini qui s'appelle La Petite, que je trouve très émouvant. En fait, l'histoire, c'est sans spoiler, c'est un homme qui est presque à la retraite, qui est ébéniste, et en fait, il a perdu sa femme il y a quelques années, et il ne reste que deux enfants, dont son fils à qui il ne parle plus, qui est marié, et sa fille qui voit tout le temps, mais en fait, son envie, c'est revoir son fils. Sauf qu'en fait, dès le début du film, son fils meurt dans un crash d'avion avec son mari. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, ils avaient un enfant en GPA, en Belgique. Et en fait, lui, il a envie d'avoir un petit enfant. Il a envie d'avoir un petit enfant, et du coup, il va tout faire pour récupérer sa petite fille, ou son petit-fils, en question. On va spoiler le sexe du bébé. Mais du coup, il va essayer de retrouver la mère chercheuse, retrouver le bébé pour l'élever lui et avoir une descendance, même si ça ne va pas plaire à sa fille, parce que sa fille va se sentir oubliée. Il va tout faire pour avoir retrouvé le petit enfant qui est de son sang.
Ok, très bien.
Ok, d'accord. Mais merci beaucoup pour ces recommandations. C'est la fin de cette émission. On se retrouve avec la même équipe jeudi prochain. Ne manquez pas l'émission Écoute ta fac tous les mardis, le mercredi et même le jeudi de midi à 13h. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée à toutes et à tous.
Et bon appétit.
Au revoir.
Bonne journée.
Et du coup, nous, on vous remercie de faire cette émission et on vous remercie de passer le jeudi. Du coup, on vous retrouvera tous les jeudis.
À part pour les vacances.
Oh, les vacances, il n'y en a pas de vacances.
Il n'y a pas de vacances ?
Il n'y a pas de vacances.
Ah oui, oui.
On serait obligé de venir, non. C'est très cool d'avoir des nouvelles têtes et des nouvelles voix sur cette émission Écoute ta fac. On est très content de vous accueillir. On espère que ça va être aussi cool qu'aujourd'hui, je pense. J'en suis sûr.
Oui,
j'espère.
Oui.
Aussi cool qu'aujourd'hui. Du coup, on se retrouve nous jeudi prochain. Pour l'équipe d'Écoute ta fac, de Radio Campus, on se retrouve mardi, mercredi. Oui, enfin non, oui, du coup pas jeudi prochain.
Ça, c'est les vacances.
Jeudi ouais. Encore d'après.
Dans deux semaines.
C'est ça.
Du coup, pour le reste, nous, du programme sur Radio Campus, vous aurez Polémix et la voix off de 14h à 15h. Et enfin, l'art qui parle de notre temps de 18h à 19h.
Parfait.
Et suivi ce soir de Live Camp de 19h à 20h et de The Real Kinking Funster, je sais pas parler anglais, de 20h à 22h jusqu'à. Et de 22h à minuit, Nation Groove.
Bah merci.